Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour le débat de midi qui commence et nous sommes heureux de vous accueillir alors que toute l'équipe s'est mise sur son 31. Eh oui, tout le monde est beau dans le studio. Alors, bon, attends, c'est le cas tous les jours, bien sûr, mais là, nous essayons de coller au plus près de la thématique du jour puisque nous allons parler de la mode et de notre rapport aux vêtements. Alors, je suis d'accord, vu les températures dans les prochains jours, la meilleure tenue, ce sera de ne pas emporter, en fait, hein, la peau nue, collection été, avec coup de soleil ou marqué par le motif d'une chaise plastique, c'est toujours très beau. Mais au quotidien, c'est vrai que les vêtements sont partout, hein, tout le temps, c'est quand même complètement fou. 100 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde. En France, ça représente 10 kilos de vêtements par habitant chaque année. Oui, quand on ouvre son placard, on peut vite se prendre une avalanche textile. Alors la fast fashion a changé la donne, mais de plus en plus de voix s'élèvent, hein, pour dénoncer d'ailleurs les conditions de travail des ouvriers d'Asie du Sud-Est, hein, pour cette industrie. Scandale des conditions écologiques aussi. Pourtant, certaines de ces mêmes voix qui s'engagent, eh bien, on les retrouve en train de faire la queue pour une opération éphémère de la marque Shein, connue pour l'exploitation de ses ouvriers. Alors, où on s'interroge sur le genre, comment la mode d'ailleurs aussi s'adapte, grande question. En fait, parmi des milliers autour de ce monde difficilement pénétrable, racontez-nous votre vision de la mode. Vous aimez, vous vous en fichez, pourtant vous portez des vêtements, et oui. Venez nous en parler grâce à vos notes vocales et messages sur l'appli France Inter et via WhatsApp au numéro suivant, le 07 64 13 70 07. 07 64 13 70 07. Allez, t'as le look coco ou pas d'ailleurs, hein, le débat midi, mets sa jaquette et on se lance.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi. Sur France Inter.
Et pour parler de ce vaste sujet de la mode, nous recevons bien sûr du beau monde autour de la table du débat de midi et notamment Julien Ferré. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Votre livre « Les dessous des tendances, quand l'éphémère fait avancer le monde » s'est publié chez Ellipse. Également, eh bien, Clarisse Rey. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes en direct des studios de Radio France à Lyon. Vous êtes directrice générale du DEFI, le comité de développement et de promotion de l'habillement depuis 2011, et directrice générale de l'Institut français du textile et de l'habillement. Également, Anthony Vincent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste du média Mademoiselle, et Audrey Millet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice du livre Noir de la mode et du walkwashing, chercheuse à l'université d'Oslo. Alors, question très complexe pour commencer et en même temps simple, hein, voilà. C'est à votre avis, allez, on va commencer par vous, Anthony Vincent. Forcément, quand on parle de mode en 2023, est-ce que c'est la même chose que de parler de mode, je ne sais pas, moi, en 1985?
Non, évidemment, c'est extrêmement différent. Je pense qu'il y a l'industrie de la mode s'est complètement éclatée. Il y a beaucoup plus d'enjeux différents, de segments différents. Aujourd'hui, on parle de fast fashion, mais on parle aussi d'ultra fast fashion. Mais on a tendance à opposer le luxe et la fast fashion, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'on remarque que des dynamiques semblables s'opèrent du côté du luxe. Par exemple, des maisons de luxe vont proposer une dizaine de collections en une seule année, ce qui est énormissime. Donc tout s'accélère au niveau de tous les segments de l'industrie, et c'est complètement différent de ce qui pouvait se passer dans les années 80.
Quand vous parlez de... Alors, fast fashion, on arrive déjà à déterminer un peu ce que c'est. C'est-à-dire, c'est des magasins, on va dire, Zara, H&M, je parlais de Chine également. Et ultra fast fashion, qu'est-ce que c'est?
Justement, donc Zara, qui appartient au groupe Inditex, qui est un groupe espagnol, qui possède aussi Bershka, Pull&Bear et d'autres marques comme Massimo Dutti, c'est un acteur historique de la fast fashion, au même titre que H&M, qui est un groupe suédois, qui possède aussi Arquette, COS ou Hanover Stories. Et bien, ça, c'est donc de la fast fashion, c'est-à-dire que ça va produire énormément de collections, environ une nouvelle collection toutes les deux semaines.
D'accord.
Et l'ultra fast fashion, c'est des groupes comme Chine,
ah, d'accord.
Okay. Et donc ça va être aller encore plus vite. Ça va être jusqu'à 8000 références en une seule journée. C'est pas des humains qui dessinent ça, évidemment. C'est beaucoup de copies qui sont produites automatiquement par intelligence artificielle, notamment. Ça va être aussi des acteurs britanniques de l'ultra fast fashion comme le groupe Boohoo, qui possède aussi la marque Pretty Little Things. Donc voilà, c'est des marques qui produisent massivement dans des conditions déplorables, qui sont écocidaires et même dangereuses pour l'homme. Et c'est un rythme vraiment frénétique.
Alors on va en parler dans un instant de cette fast fashion qui a changé véritablement la mode, mais juste au départ un petit tour de table. En effet, Clarisse Rey, vous, quand on vous parle de mode aujourd'hui, vous avez aussi cette impression d'éclatement, comme le disait Anthony Vincent?
Alors, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Anthony Vincent. C'est pas tant un éclatement que des univers extraordinairement différents. Et ce qu'il faut regretter, c'est qu'on met sous le terme de mode des choses très différentes qui n'ont rien à voir. Il y a d'une part une mode extraordinairement créative où la France est en pointe. Hein. Il y a les modes de luxe. Il y a des marques créatives, mais qui sont déjà commercial. Ensuite, il y a des marques de la fast fashion qu'a cité Anthony, mais je voudrais aussi signaler, parce que je crois qu'aujourd'hui, avec l'avènement de Shine, qui est tout de même quelque chose d'extraordinairement nouveau et une espèce de tsunami, hein, je veux dire, c'est 10 millions en France de personnes qui consultent le site chaque jour, c'est la mass fashion. Et je crois qu'il faut apporter et juger les choses de façon différente. Alors le défi, on est vraiment au cœur de la création française, on la soutient. Il n'y a juste aucun rapport entre un Louis-Gabriel Nucci, une Jeanne Friot,
qui sont ces gens Pierre. Alors attendez, qui sont ces gens alors juste préciser.
Ce sont des tout jeunes créateurs d'avant-garde qui sont aidés par le défi. Hein. Louis-Gabriel Nucci vient de recevoir un prix, le prix de l'Ondam de la création, qui est un prix, je dois dire, de reconnaissance mondiale. Après, vous avez des marques de créateurs que le défi a aidés, comme Jacques Mus, Ami, déjà que les gens doivent connaître. Vous avez évidemment nos marques de luxe comme Chanel, Louis Vuitton, etc. Vous avez les Bâches Sandro, vous avez le slip français.
Oui, on voit en effet donc tout un univers assez large.
Oui, mais vous avez un petit bateau aussi. Et puis après, des marques françaises qui sont des marques mass market, mais qui sont vertueuses, Promode et Kaby. Et puis après, on rentre dans Zara, dans Shine. Et c'est là où il faut bien distinguer les choses.
Alors,
c'est pas vrai que les problèmes sont les mêmes.
On va justement, on a jusqu'à 13 heures pour en parler. Oui. Car Israël, ne vous inquiétez pas. Julien Ferret, il est vrai que, au départ aussi, nous, quand on a lancé cette émission, c'est jamais évident quand on aborde la mode et ce système même économique. On n'a pas l'impression d'avoir les codes. Il y a certaines personnes qui disent « je m'en fiche » et pourtant tout le monde porte des vêtements. C'est assez étonnant quand même ce rapport que nous avons avec la mode.
Alors d'ailleurs, j'apportais peut-être une petite nuance au débat. Est-ce que ça a changé par rapport aux années 80 ou pas? Et pour répondre à votre question, en fait, l'industrie a beaucoup changé. La mode, c'est une espèce de rencontre d'intérêts. Vous avez d'un côté une industrie. L'industrie, elle est basée sur un modèle de croissance, c'est-à-dire que tous les ans, elle va vendre des nouveaux vêtements et donc elle crée un système d'obsolescence. Ce qu'elle vous a vendu en 2023, elle va vous faire croire en 2024 qu'il est plus portable et qu'il faut en acheter un nouveau. Ça, c'est le côté industriel avec ce dont on parlait les deux personnes juste avant. Du coup, un éclatement du marché, une accélération et ainsi de suite liée à une croissance et à un modèle capitaliste. De l'autre côté, ce qui n'a pas changé, c'est le rapport des gens aux vêtements. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui débute à peu près au début du XXe siècle, qui est une société de l'individualité où on part sur une théorie qui est que ce que vous êtes à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et donc ce que vous portez, ça signifie votre identité. Et ça, c'est un système qui est vrai même quand on le refuse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Et donc, vous êtes obligé de vous habiller et donc de dire des signes qui sont parfois des non-signes, c'est-à-dire que vous refusez la mode et donc vous vous habillez non-mode, mais quand même vous portez des vêtements qui signifient le non-mode et d'ailleurs qui peuvent signifier le corps ou ce genre de tendance.
C'est-à-dire que dans la mode, il existe la non-mode.
Il existe tout plein de courants en fait qui permettent à chacun de se positionner et de signifier quelque chose de ce qu'il est, avec ce lien indissociable qui est qu'à chaque fois que vous vous habillez, en fait, vous émettez des signes que vous voulez interpréter d'une certaine façon et que les gens vont décoder d'une certaine façon, en espérant au maximum qu'il y ait une correspondance entre les signes que vous émettez et les signes que les gens reçoivent, qui est votre identité.
Mais c'est ça, Audrey Millet, finalement, malgré en effet cet éclatement, malgré le fait que parfois s'habiller peut être compliqué, ça reste quand même une part de notre identité, ce qu'on porte?
Oui, la mode est tout à fait essentielle. Alors, d'une part, alors, toujours on dit pour se couvrir, bien entendu, contre les intempéries.
Bien sûr.
Et puis, on ne peut pas sortir de chez soi tout simplement nu, sinon on finit en prison. Donc, la mode a toujours été importante. Il y a des événements différents, des événements du matin, des rendez-vous, des entretiens d'embauche, ce type de choses. Mais c'est vrai qu'on a assisté à une accélération, à une recherche du moindre coût depuis plus de 100 ans, depuis la fin du 19e. Et là, il y a véritablement eu une perte de repères dans la chaîne de production et de fabrication, qui pose problème à beaucoup d'enseignes.
Alors, ça veut dire quoi, excusez-moi, perte de repères, quand vous dites perte de repères?
C'est-à-dire que beaucoup d'enseignes sont incapables de retracer en réalité toutes les étapes de la fabrication, de la production, et ça, tout ça pour le moindre coût, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de délocalisation. Ce qui ne met pas au même niveau ces grandes enseignes et des créateurs qui ont l'envie, le bonheur de nous habiller, de nous rendre beau, de nous donner du bien-être, de nous donner du confort. Et il y a vraiment une échelle de valeurs qui s'est... Il y a un grand écart maintenant entre... Mais ça, ça a été par deux étapes. La démocratisation, et on est très heureux de cette démocratisation, de pouvoir avoir plusieurs vêtements tout de même, et de changer. Mais cette massification qui intervient donc après les années 60-70, qui est venue d'abord des États-Unis, ça il faut bien le savoir, et ensuite de la Chine.
Alors Clarisse Rey, vous vouliez réagir ?
Je voulais réagir parce que quand j'entends on est obligé de s'habiller comme si les normes sociales faisaient qu'on pouvait pas se balader tout nu dans la rue ou comme si le vêtement était uniquement une fonction, j'avoue que je partage absolument pas parce que la mode, je vais dire, est une espèce de concentré, là je parle de mode créative, est un concentré d'une époque. Quand vous pensez aux années 70, vous imaginez très bien les vêtements. Quand vous pensez au Moyen-Âge, vous imaginez très bien les vêtements. Chaque époque, je veux dire, est un concentré à la fois, la mode est un concentré à la fois de valeurs et de l'esthétique d'une époque. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et la mode, l'obsolescence, elle traduit simplement aussi les gens, la mode avance, la civilisation avance, l'époque avance, il y a de nouvelles problématiques, il y a des nouvelles choses qui émergent, et donc la mode change comme l'art change. On reproche pas à un peintre de peindre comme au 19e siècle. Parce que sinon on tombe dans un académisme stérile. Et donc la mode créative qui est un art, oui, elle évolue, mais en même temps, moi je mets des choses d'il y a 30 ans sans problème.
Alors, Anthony Vincent, Julien Ferry, vous allez réagir dans un instant, mais juste Audrey Mier, vous vouliez réagir à ce que disait justement Clarisse Rey.
Oui, mais en fait, on est obligé de se vêtir, c'est juste légal dans nos sociétés.
Oui, bien sûr. Oui.
Si on est tout nu, on va en prison. Il est aucunement, je n'ai aucunement l'intention de nier le fait que durant l'Antiquité, il y avait également des perruques pour les Romaines. Que évidemment sur le forum les femmes s'habillaient de manière éminemment esthétique, que les marchands ambulants de bijoux existaient, que la mode ne date pas du 15e siècle, mais c'est la base. Donc dans tous les cas, à un moment, tous les matins, vous pouvez ne pas vous coiffer, vous ne pouvez ne pas vous brosser les dents, vous pouvez ne pas manger, mais vous allez vous habiller. Donc là, des questions, des choix se posent et ils vont devenir esthétiques.
Alors, un mot à propos aussi de la mode par rapport à cette vision qu'on peut en avoir aussi, Julien Ferré. Est-ce que aujourd'hui, la mode, le fait que ça soit complètement éclaté, est-ce que finalement, on nous impose moins de choses qu'à une époque où on devait s'habiller d'une certaine manière pour représenter soit sa classe sociale, soit son métier? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est totalement libéré, il y a moins de pression aussi là-dessus.
Je sais pas s'il y a moins de pression. Peut-être qu'il y a des pressions qui sont peut-être plus diverses et variées. Tout à l'heure, vous avez utilisé une expression que je trouvais intéressante qui a été utilisée également le sémioticien Roland Barthes, le système de la mode.
Oui.
Et en fait, la mode, c'est un système dans le sens où il y a plusieurs gens qui jouent. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui portent, puis il y a les gens qui créent, donc les industries. On a parlé des créateurs, mais on a parlé aussi des non-créateurs qui copient, et ainsi de suite, peu importe. Ils font tous des propositions de mode. Et puis, entre tout ça, il y a aussi quelqu'un, un peu un grand absent dont on n'a pas parlé pour l'instant, qui est le système médiatique. Et le système médiatique, il a des influences qui sont extrêmement fortes. C'est lui qui va... Alors, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant longtemps, dans le magazine Elle, il y a une rubrique qui s'appelait « Des podiums à la rue ».
D'accord.
Vous avez le vêtement sur le podium, puis comment est-ce que le porte la célébrité et comment est-ce que vous, Madame Michu, vous pouvez le porter. Donc, le podium va être super extravagant et puis la version rue, ça va être une version un petit peu accessoire, ceinture, qu'on peut facilement mettre sans forcément avoir l'air trop provoquant. Et donc, vous avez comme ça un rôle du média qui va être un rôle de guide et qui va jouer souvent sous ses airs un peu libérateurs, parce que souvent le média prend une position libératrice, va jouer en fait les garde-chiots, mais nous dire ce qu'il faut ou ne faut pas porter.
Anthony Vincent.
Alors, c'est de moins en moins vrai, effectivement. Donc, on est passé d'un rapport extrêmement vertical à la mode à quelque chose de beaucoup plus horizontal. Longtemps, les médias ont dicté, ou en tout cas contribué largement à la diffusion des tendances et des images de mode. Et donc, clairement, on avait des médias qui disaient « Ah, on a aperçu ça chez telle marque, telle maison de luxe, telle autre maison de luxe, etc. » Et vous pouvez retrouver des dupes, ce qu'on appelle souvent des dupes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment.
Qu'est-ce que c'est ?
Donc, quelque chose qui ressemble énormément à ce qui a été proposé par une maison de mode de luxe, qui, donc, la pièce va coûter 1 000 euros, la veste en cuir, par exemple. Et on va retrouver trouver un dupe semblable dans une marque de grande distribution, voire de fast fashion,
Il n'y a pas de copyright aussi, c'est ça?
Pour être accusé de pour échapper à une accusation de contrefaçon, il suffit de faire environ 7 différences sur une pièce. Donc, par exemple, vous pouvez placer les poches à un autre endroit de quelques centimètres de différence, ou en rajouter une huitième, si on avait 7, pour échapper à toute accusation de contrefaçon ou de copie. Donc, il y a énormément de marques, c'est souvent comme ça que ça se passe, et le luxe propose des choses très créatives. Ensuite, des marques de grande distribution vont les copier très rapidement parce que, justement, la diffusion des images de mode, c'est extrêmement accéléré, et ça passe pas forcément par les magazines de mode. Les médias sont de moins en moins autoritaires là-dessus.
C'est les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ça?
Et notamment les réseaux sociaux, et donc en fait, ça fait de moins en moins des podiums à la rue, mais la rue dicte autant au podium que l'inverse, et les médias, en fait, ont de moins en moins d'influence là-dessus. Ils ont aussi de moins en moins d'autorité là-dessus parce qu'ils s'adressent de moins en moins à leur lectorat, en fait. Maintenant, les annonceurs règnent en maître du côté des médias, surtout féminins. Okay. Et donc, l'assiette d'annonceurs est très restreinte. Ça va être beaucoup de maisons de luxe qui vont imposer leurs ambassadeurs, ambassadrices, de manière plus ou moins subtile. Et donc, on va les retrouver en couverture. Ces maisons de luxe vont également imposer des total looks dans les séries mode. C'est-à-dire que la mannequin va être habillée de la tête aux pieds par une seule et même maison. Alors qu'avant, on pouvait mixer des pièces.
Ah oui, d'accord.
Voilà, c'est de moins en moins créatif.
De l'exclusivité, en fait. Voilà, c'est ça.
Beaucoup d'exclusivité. Voilà, et du coup, on se retrouve avec des médias qui s'adressent surtout à leurs annonceurs et de moins en moins à leur lectorat. Et les personnes qui veulent s'habiller, elles ont de moins en moins, c'est de moins en moins dans leurs usages de lire des magazines de mode pour s'informer sur les dernières tendances, et de plus en plus elles vont consulter TikTok, Instagram, Pinterest, etc. pour s'informer et ne plus chercher forcément à regarder sur les podiums. En fait, les créatrices de contenu dominent énormément les tendances aujourd'hui.
C'est ça aussi, Julien, ça a bien changé aussi ça dans la mode, c'est-à-dire les réseaux sociaux, on le voit, c'est intéressant ce que vous avez dit aussi Anthony Vincent, c'est ce changement de la rue finalement maintenant qui dicte aussi peut-être aux créateurs et qui s'en inspirent directement.
C'est plus horizontal. On va dire un plus grand rapport d'égalité de rapport de force, un éclatement aussi, on l'a dit tout à l'heure. Mais si vous prenez un influenceur, par exemple, en fait, c'est un média, c'est-à-dire qu'il joue le rôle d'une posture médiatique. Il va être suivi par un certain nombre de gens qui vont le consommer de façon régulière, parfois tous les jours, parfois tous les deux semaines, et ainsi de suite. Et puis, il va vous faire des propositions de mode, il va porter tel vêtement, tel accessoire, et ainsi de suite. Et vous allez avoir envie ou non de reproduire ce type de comportement. Donc, vous avez en fait... un éclatement de la figure médiatique, mais quand même la persistance de figures d'opinion. Et tout à l'heure, on parlait des influenceurs, on parlait des magazines, mais on pourrait parler des stars aussi, hein, qui jouent exactement le même type de rôle et qui ont également ce potentiel d'influence.
C'est ça. Clarisse Ray, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir parce que c'est la grande transformation, je crois, des 40-50 dernières années, c'est que aucune marque fut-elle extrêmement forte, extrêmement puissante, pouvant se payer des publicités dans les plus grands magazines, n'impose son style. Aujourd'hui, la mode, parce que justement les réseaux sociaux, Instagram, c'est la liberté, c'est un champ de liberté. Et la mode, le rapport à la mode, le rapport d'une personne à la façon dont il s'habille, c'est parce que il a une relation avec les autres. Si vous restez chez vous, scotché devant votre écran digital, comme voudraient le faire les oligarques de la Silicon Valley, vous habillez parce que vous voulez vous exprimer votre individualité, et c'est vrai que vous vous habillez pas de la même façon pour venir, j'allais dire sur France Inter, que pour un entretien d'embauche, que pour aller à une soirée.
Ça dépend.
Et
vous savez pas comment on habille aujourd'hui.
Pas encore. En tout cas, pas moi.
Ah d'accord. Dans cette chaleur. C'est noté.
Mais si vous voulez, c'est un espace de liberté et de symboles et de concrétisation de relations aux autres.
Un mot aussi, Audrey Millet, pour vous, vous avez vu cette différence soulignée tout à l'heure par Anthony Vincent et Julien Ferré sur ce rapport. En effet, auparavant, on pouvait se plonger dans les magazines pour voir quelle était la tendance. Aujourd'hui, la rue et les réseaux sociaux font un petit peu aussi cette nouvelle mode qui apparaît, et qu'aujourd'hui, ça s'est un peu inversé au niveau du pouvoir dans la mode.
Oui, il y a un échange de pouvoir en réalité. Je crois qu'il faut y prendre vraiment toutes les choses positives. La mode, là, peut devenir beaucoup moins agressive. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du bob jusqu'aux chaussures, la même marque. C'est un terrain de jeu formidable, un moyen d'expression qui va vous donner du plaisir, du bonheur, qui va vous permettre de partager avec les autres par message codé, de coordonner, de combiner avec une pièce ancienne, un accessoire nouveau, et qui fait appel finalement au libre arbitre, aux décisions de chacun, Et je crois que là, il y a vraiment, c'est un terrain de jeu formidable, la mode.
Allez, on va continuer à en parler dans un instant, justement, de la mode, de la fast fashion, enfin bref, toutes vos questions. N'hésitez pas à nous contacter via l'appli France Inter. Bah tiens, on va écouter un homme qui s'est lancé dans la mode. Alors lui aussi responsable, c'était Stromae. Il avait lancé sa ligne de vêtements. On va écouter maintenant Stromae avec le titre « Pas vraiment ».
Qu'est-ce qu'on est beau sur la photo? Qu'est-ce qu'on est beau sur les réseaux, chérie? T'as vu les gens comme ils sont jaloux de nous? Tous mes biens sont les tiens, et tous tes biens sont les miens aussi. On a tout pour aller bien, mais les biens ça fait pas tout du tout. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu qu'on s'aimait pas vraiment. Tu trouves pas qu'ils sont bizarres? Tu crois vraiment à leur histoire, toi? Moi, je crois pas que ça va faire long feu. J'avoue, bientôt, ça fera 5 ans. Mais ils font de la peine à voir, non? Je crois pas qu'un jour ils s'échangeront leurs vœux. Je me demande pourquoi vous êtes encore ensemble, vous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, lui et toi, faudrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vous vous aimez pas vraiment. Je l'ai dans mes pensées, mais bien sûr je voudrais l'épouser. Ben justement je devais lui dire mardi. Genou à terre, j'allais la demander. Avant que je l'ouvre, elle s'est excusée. J'étais tellement choqué quand elle m'a dit. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, je ne sais même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu que je t'aimais pas vraiment. S'arrêter là, c'est mieux vu qu'on s'aimait pas vraiment.
Le débat de midi sur France Inter.
Le débat de midi, hein. Nous parlons aujourd'hui de la mode, de notre manière de s'habiller. Et alors, il y a aussi quand même tout de même une question qu'on peut se poser avec la mode, c'est est-ce qu'elle tient vraiment compte des tendances de l'époque? C'est vrai, en même temps, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, Julien Ferré, on voit que aujourd'hui on parle énormément du genre, du sexe. Est-ce que la mode s'est emparée de ça? C'est notamment quand on parle par rapport aux femmes de l'hypersexualisation. Souvent, c'est évoqué. Est-ce que la mode s'en saisit ou alors elles sont contre-fiches, tout simplement?
Alors, c'est une bonne question, c'est au cœur de mon travail de recherche.
Ouais, bah oui.
En fait, la mode est très consommatrice de tendance parce que elle est consommatrice de nouveautés. On en a parlé tout à l'heure, en fait, son système, c'est un système d'obsolescence. Et il y avait tout à l'heure, il y avait une des intervenantes qui disait que la mode était ancrée dans son époque. Et effectivement, elle va chercher en permanence à s'ancrer dans son époque. Et ce qui est assez fou, c'est qu'elle est capable de reprendre de tout. C'est-à-dire que ça peut être des choses qui sont de l'ordre du superficiel et de l'ordre du système de la mode, mais ça peut être aussi des choses qui sont liées au contexte social. Une guerre qui arrive et on va avoir des looks guerriers sur les podiums. Et
ah oui,
donc elle va s'inspirer de plein de choses très différentes, voire même parfois de sa négation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près 20 ans, il y a un livre qui était sorti de Naomi Klein qui s'appelle No Logo, qui était sur la tendance du minimaliste et du fait que les gens ne voulaient plus arborer des marques et qu'ils voulaient au contraire des choses qui étaient discrètes, entre guillemets. Et ben les marques s'en sont emparées et elles ont produit, même les marques qui avaient des monogrammes et ainsi de suite, des collections où on ne voyait plus la marque. Et donc, la mode est capable de s'emparer même de son antithèse.
C'est ça. Audrey Millet, tout à l'heure, là, je parlais un instant donc, de l'hypersexualisation, notamment des femmes dans le milieu de la mode ou des vêtements. Aujourd'hui, est-ce que ce milieu a décidé d'agir, de faire quelque chose, ou alors ce sont des vœux pieux et ça restera comme ça a toujours été?
La mode est là pour humer l'air du temps, hein, pour écouter le consommateur, pour écouter les différentes strates de la société. C'est son job et elle fait très bien de le faire parce qu'elle nous donne une réponse matérielle à des problèmes qui peuvent être géopolitiques, psychologiques, moraux. Il y a évidemment des marques qui font, par exemple, on a actuellement, on parle beaucoup de ceci, des grandes tailles, puisqu'il n'est pas évident, dès que vous faites plus d'un 42, alors que c'est à peu près la taille moyenne des Françaises, de s'habiller. Donc, ils investissent dans différents corps. On a également des marques voilà, qui vont refuser le bling-bling, trop de logos. Ça, ce sont des choix, ce sont des choix stratégiques, c'est l'ADN d'une marque. Mmh. Ensuite, sur les podiums, lorsqu'on voit défiler sur un seul défilé une nana, un top modèle qui est noire et qui est forte, on peut se demander dans quelle mesure ce geste est significatif. À la fois, ce geste est fait. Mmh. Donc, il y a aussi, puisque c'est très médiatisé, une manière de faire passer des idées. Elles ne sont pas toutes ces marques ne sont pas toutes négatives, mais leur but est quand même de vendre. Donc, elles sont tout à fait à l'écoute, par exemple, du trop d'hypersexualisation, de demande de produits plus recyclés. Ils sont vraiment quand même à l'écoute de la demande des consommateurs.
Alors, ils sont à la demande, mais en même temps, vous voyez beaucoup de clients et clientes de marques qui ont pignon sur eux et qui disent, ben, en fait, on voit des tailles qui ne correspondent pas. Vous avez parlé tout à l'heure de la taille des Françaises, et parfois on vend eh bien des vêtements qui sont eh bien moins avec des tailles plus basses, qui ne vendent pas justement des bonnes tailles.
Oui, le problème de la taille est vraiment un problème récurrent. Je voulais vous prendre par exemple l'exemple d'une boutique vintage à Paris,
le Sugar
Cane, voilà des vieux vêtements qui avait fait un rayon grande taille. Et en fait, ce rayon ne s'est jamais vendu. Parce que les filles, elles ne pensent pas qu'il y a des grandes tailles dans ce lieu et elles pensent qu'elles doivent acheter du coup sur Internet. C'est plus accessible, plus facile pour elles.
D'accord.
Donc ce problème des tailles, il est quand même assez récurrent. Mmh. Le français moyen porte assez peu de 34. Il y en a. Mmh. Mais c'est vrai que ça, le 42, le 44, le 46, ces filles l'attendent.
Mais...
Et elles ont le droit de s'habiller et elles aussi d'en faire un terrain de jeu.
Complètement. Clarisse Rey, vous vouliez réagir?
Oui, je voudrais dire deux choses.
Oui.
D'une part, c'est l'essence même de la mode de capter l'air du temps ou du temps qui vient. De ce que je vois, par exemple, depuis 6-7 ans, tous les jeunes créateurs qui créent leur marque et qu'on connaît très très bien au défi, ils sont tous, je veux dire, avec un souci extrêmement fort pour l'environnement et de plus en plus sur le non-gender, le non-genré. Mm-hmm. Donc, bien avant que ça soit des thèmes extrêmement forts, j'allais dire, sur les médias, etc., ou dans les problématiques politiques. Sur la taille, alors ça, c'est encore un vrai problème, parce qu'il y a la taille 42, et puis il y a aussi toute une partie de la population qui vieillit, qui a plus de mal pour enfiler ses vêtements, et quelqu'un, après 60 ans, 70 ans, il n'a pas envie de s'habiller forcément de façon extrêmement normée, classique, etc. Donc ça, c'est encore effectivement un vrai sujet que l'industrie de la mode prend très peu en compte.
Oui, c'est ça. Alors, Anthony Vincent, pour vous, aujourd'hui, la mode prend... Alors, c'est différentes thématiques hein, qu'on voit en ce moment du genre, sur l'hypersexualisation, sur également, aujourd'hui, s'assumer comme on l'est. Est-ce qu'aujourd'hui, on le voit des modèles, comme disent les anglo-saxons, positifs? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est véritablement acté ou alors on est encore dans la communication pour la mode?
Je pense que c'est les deux à la fois. Et comme le dit Audrey Millet un peu plus tôt, c'est une industrie qui adore capitaliser sur des tendances de société, notamment le body positive. Donc, elle va, par exemple, prendre une mannequin qui va servir de caution body positive sur un défilé. C'est toujours les mêmes. D'ailleurs, ça va être Ashley Graham, Paloma Alcesser, Kill Kurt Lev, ou encore, je sais plus qui d'autre, mais bref, il y en a vraiment quatre ou cinq qui défilent pour une collection par saison. Et en fait, c'est l'exception qui confirme la règle. On va avoir une mannequin taille 40-42 et elle va apparaître beaucoup plus grosse que les autres parce que toutes les autres font du 34-32 et elle va être là pour cocher une case, en fait. Et de la même manière que, comme le disait Clarisse Rey, on assiste aussi à tous les jeunes créateurs qui veulent absolument proposer des collections avec des pièces, des matières upcyclées, c'est-à-dire qu'elles proviennent de dead stock, donc des stocks dormants des grandes maisons.
D'accord.
Et justement, ça va leur permettre d'afficher un message éco-responsable, en fait, et de dire, regardez, nous, on est éco-responsable, on s'adresse à tous les types de genres, et on propose même, on a même des mannequins grande taille sur nos défilés. Après, la réalité des collections derrière, ce qui est véritablement vendu, dépasse rarement le 42. Donc c'est assez...
Mais là, quand vous parlez de physique un peu fort, est-ce qu'il y a le contraire aussi? On a souvent accusé la mode de mettre en avant des femmes eh bien, en sous-poids, c'est-à-dire véritablement sur la minceur, la maigreur, et d'encourager aussi, quand on portait, bah, pour ressembler à ces personnes-là, il fallait être très maigre, et donc ça peut être très dangereux aussi.
Effectivement, il y a même un retour à une esthétique qu'on surnomme héroïne chic. Je vais y venir, mais je voulais juste citer une étude du Vogue Business, donc qui est un média qui appartient au groupe Condé Nast, au même titre que Vogue, qui avait souligné que sur la dernière Fashion Week automne-hiver 2023-2024, seulement 0,6% des mannequins étaient plus size, donc environ plus qu'un 44 français, et 95,6% des looks représentés, c'était taille 34, voire 30. Une taille 30, aujourd'hui, c'est irréel, enfin, c'est très très rare d'être naturellement faire une taille 30 quand on est une personne adulte, en fait. Mais ça montre bien qu'il y a un retour à une esthétique très très maigre sur les podiums, que c'est à nouveau glamourisé, et ça, c'est multifactoriel. Pourquoi est-ce que ça revient sur les podiums? On peut assister au succès de séries comme Euphoria qui montre que drogue et beaux vêtements font bon ménage. Ça, c'est un retour à ce qu'on surnomme l'esthétique héroïne chic, qui était très en vogue dans les années 90, à une époque où, en fait, la consommation de l'héroïne était relativement glamourisée. Bon, après, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui défile, les corps qui défilent, ne cherchent pas forcément à correspondre à une réalité de la population, mais plutôt à du rêve, en fait, à du désir. L'industrie de la mode, c'est vraiment l'empire de l'éphémère, comme le disait l'intellectuel Lipovetsky. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui fait vendre, c'est aussi ce qui nous fait rêver et ce qui peut être inatteignable. Donc en fait, on cherche pas toujours à s'identifier à ce qu'on voit. Parfois, c'est justement l'inaccessibilité qui nous fait rêver.
Et pourtant, Clarisse Rey, souvent, ça a été mis en cause, cette industrie de la mode, par rapport aux mannequins, par rapport à la minceur, à la maigreur aussi des modèles. C'est quand même un véritable souci quand certaines personnes tentent de leur ressembler.
Alors évidemment, des mannequins anorexiques, c'est évidemment un problème. Maintenant, il y a une loi, de toute façon, en France, et puis il y a des engagements de grandes marques.
Oui, mais ces engagements sont-ils tenus?
Oui, ils sont tenus. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas les tenir. Ensuite, honnêtement, regardez autour de vous. Je veux dire, partout, les gens sont beaucoup plus libérés par rapport à leur taille, leur corps, beaucoup plus décomplexés. Alors moi, je suis sans doute plus âgée que vous, je veux dire, il y a 20 ans, ça n'était pas le cas. Il y avait effectivement cette espèce d'injonction de minceur, voire de maigreur. Maintenant, objectivement, c'est plus du tout le cas.
Et pourtant, c'est la majorité, non? Tout de même des mannequins que l'on peut voir, hein, moi,
oui,
vraiment, véritablement.
Mais les mannequins, honnêtement, par rapport à l'industrie de la mode, et quand on prend de l'industrie de la mode, d'abord, combien, je veux dire, ça représente par rapport aux vêtements qui sont vendus? Ensuite, vous avez même des maisons, Karl Lagerfeld, je crois, a été l'un des premiers à faire défiler des mannequins qui étaient pas simplement tous maigres, plus divers. Celui qui a été vraiment marqué un grand coup, c'est Demna Gvasalia, de vêtements et de Balenciaga. Si vous voulez, c'est des choses qui avancent, et grosso modo, les gens ne sont plus, je pense, complexés par rapport à leur taille.
J'y ai fait.
Et pour rebondir sur ce que disait Anthony, il y a effectivement le sujet des marques, mais il y a aussi la responsabilité des gens. Et là, pour le coup, c'est le chercheur en sciences de l'information et de la communication qui parle. En fait, quand les marques de luxe produisent des images de défilés ou des images de mode avec des personnes très maigres, elles produisent de la publicité. Et il y a un rôle des médias et il y a un rôle de la société à le délimiter, à le reconnaître comme de la publicité et à ne pas faire croire, entre guillemets, que c'est la réalité. Et il y a aussi le rôle des gens à effectivement le reconnaître comme étant une production onirique qui a des liens avec notre réalité, mais qui en est aussi décorrélée, comme toute publicité.
Anthony Masson.
Il y a effectivement des lois qui imposent, par exemple, de notifier que telle image a été retouchée.
Oui.
Mais après, qui prête attention aux petites légendes, à la petite astérix qui dit photo retouchée sur Instagram, comme dans les pubs dans la rue qu'on peut trouver dans le métro, etc. Et il y a aussi, Clarisse Rey, vous en parliez, je pense, mais les chartes qui ont été co-signées par les principaux groupes de luxe les plus puissants au monde, que sont Kering et LVMH, les deux sont français d'ailleurs, qui imposent en fait aux marques de donc aux marques de ces groupes-là qui détiennent la majorité des marques de luxe européennes les plus connues, de recruter seulement des mannequins qui font plus qu'une taille 34, ou alors, si elles sont plus minces que ça, d'avoir un certificat médical qui atteste de leur bonne santé. Parce qu'en fait, il arrive qu'on soit en dessous de cette taille-là naturellement.
Oui, oui.
On parle parfois de maigreur constitutive, c'est une condition médicale, c'est pas une pathologie. Mais dans la réalité, j'ai fait une enquête là-dessus auprès d'agences de mannequins, et la plupart des sources voulaient rester anonymes, mais en fait, c'est très très peu surveillé. Cette carte-là a été co-signée, mais dans la réalité, il y a très peu de contrôles qui sont faits pour vérifier que véritablement ces mannequins-là sont en bonne santé, que leur IMC, même s'il est plus bas que ce qui devrait être considéré comme en bonne santé.
Corporelle.
Voilà, l'indice de masse corporelle, quand il indique de la maigreur, et ben en fait que c'est naturel, que ça leur pose pas de soucis, ça c'est très peu contrôlé. Et il y a aussi beaucoup de médecins qui signent ces certificats, ils sont bien connus des agences de mannequins, et en fait on les envoie vers le bon médecin pour avoir le bon certificat.
Voilà, bah donc, écoutez, voilà. En tout cas, voilà, ça c'est un peu la face sombre, et alors on va continuer dans la face sombre de la mode, parce qu'il y a beaucoup de messages sur WhatsApp, hein, sur, eh bien, l'industrie, et notamment du textile et de la fast fashion, notamment, eh bien, il y a Félix, hein, qui nous dit, voilà, bon, je suis pas un fan de mode, mais j'achète des vêtements comme tout le monde, je m'habille, et je suis assez fasciné et effrayé par le nombre de vêtements que j'en achète et ne porte pas. Alors là, véritablement, on est, Audrey Millet, dans l'un des drames au niveau des vêtements d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire ces vêtements qu'on achète, on achète, qui s'entachent chez nous et dont qu'on va porter qu'une seule fois, mais c'est tellement peu cher qu'aujourd'hui, on les entache chez nous, on appelle ça la fast fashion, et c'est véritablement en train, eh bien, de renverser même le modèle de la mode et aussi d'être une horreur écologique et économique.
Oui, c'est le système de la tentation. On a tous le droit d'être tentés et de craquer. Voilà, je crois que c'est quand même... voilà. Si vous pensez que ce vêtement-là est formidable pour vous, formidable. Le problème, c'est la répétition de cette tentation. Qui est, bien entendu, cette tentation amenée, excitée, stimulée par des pubs, par Instagram, par des réseaux sociaux, par des pubs également sur votre téléphone, même sur votre mail, hein, tout simplement.
Mmh.
Donc, à un moment, vous craquez. Mais c'est peut-être oublié. Et là, moi, je crois que le consommateur, certains se réveillent, devrait se rappeler ce qu'on disait tout à l'heure sur le libre arbitre. Ce terrain de jeu formidable, ça doit pas devenir un puzzle infaisable. C'est-à-dire que les vêtements se combinent et se coordonnent et nous construisent. Et c'est à ce moment-là, quand on a réussi une silhouette, quand on se sent bien dedans, quand on a utilisé ce dernier accessoire-là que j'adore, vert, je crois que le consommateur doit se rappeler ça. Déjà, penser à lui. Ensuite, dans une deuxième étape, se demander si c'est bien utile. Aussi d'où ça vient, dans quelles conditions. Le problème, c'est que c'est tentant à cause du prix. Alors, c'est vrai que pour quelques euros, bon.
C'est ça. Non, mais en effet, on le voit aussi. Alors après, je donne la parole à tout le monde, bien sûr. Mais Anthony Vincent, quand on le voit, on va parler dans un instant donc de Chine. En effet, cette ultra fast fashion, donc cette marque chinoise, on l'a vu. C'est-à-dire que tout le monde est au courant, eh bien, des conditions de travail condamnées par des ONG. Ils font travailler aussi des prisonniers ouïghours. Ils payent des influenceurs américains pour dire à quel point c'est bien. Quand ils montent une boutique éphémère à Paris, il y a une queue monstrueuse.
Il y a des heures de queue.
Et on a entendu tout à l'heure, ce matin, un témoignage d'une personne qui disait, ben oui, mais c'est un t-shirt à 2 euros.
Oui, voilà. Déjà, ça devrait poser question à tout le monde, en fait, le fait qu'on puisse acheter un t-shirt à 2 euros pour le prix d'un pain au chocolat et d'un croissant. Enfin, c'est effarant, sachant que le t-shirt, bah, c'est du coton qui a peut-être poussé au Mali, en Éthiopie ou en Chine, ouais, qui a été filé en Chine et ensuite qui va être teint ailleurs et terminé encore ailleurs. Enfin, le t-shirt a fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver sur votre dos et il coûte 2 euros. Donc, en fait, ce prix cache énormément de choses, dont beaucoup de souffrances, beaucoup de pollution et beaucoup de dégâts. Et c'est effrayant, en fait. On devrait réfléchir à tout ça quand on achète des vêtements. Je dis pas ça pour culpabiliser les gens, je dis ça pour qu'on s'informe. Et en fait, je crois que c'est vous, Audrey, qui le soulignez un peu plus tôt, c'est qu'on a perdu toute notion de traçabilité dans la mode. Même les marques ne savent plus d'où viennent leurs vêtements, comment est-ce qu'ils sont produits, où est-ce qu'ils sont teints, où est-ce qu'ils sont filés. Voilà, donc là, la France est en train de rétablir son industrie du lin, de transformation du lin, des filatures dans le nord de la France. Et on va à nouveau devenir autonome autonome sur la production de lin. Mais voilà, c'est extrêmement compliqué d'avoir des vêtements qui sont produits localement et qui ne font pas souffrir la planète et l'humain. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la mode, c'est une industrie cannibale. Enfin, c'est que elle cannibalise tous les champs culturels. On parlait de publicité, mais tout est pub aujourd'hui. Tout est pub de mode, y compris les clips vidéo de musique qu'on adore, y compris les films qu'on va regarder, les séries qu'on regarde. La mode est vraiment partout. Elle cannibalise tout.
C'est ça, Julien Ferré, sur la fast fashion et donc l'ultra, donc on a appris ce terme avec vous, l'ultra fast fashion, donc de Chine, ce groupe. Il y a Bérangère Couillard qui est secrétaire d'État chargée de l'écologie qui a dit en juillet, au début du mois de juillet, combattre avec détermination le modèle économique de l'entreprise Chine, notamment avec un projet d'éco-score dessus. Est-ce que ça peut faire évoluer, à votre avis, les mentalités ou alors le portefeuille parle avant tout?
Je sais pas trop. En fait, alors moi, quand je me place dans une posture de recherche, je me place dans une posture de pas de jugement de valeur. Je regarde plutôt ce qui se passe dans la société, et je me dis, alors il y a deux sujets. Un, je trouve ça compliqué de faire poser la culpabilité sur le consommateur, c'est-à-dire que c'est une responsabilité partagée par les marques, par les médias, par le consommateur, et tout le monde a un peu sa part. En fait, tout le monde alimente ce système, et tout le monde y trouve aussi son compte. Et du coup, je me dis, quel est le compte qui trouve le consommateur? Et le consommateur, il fait sans doute une équation entre guillemets des peines et des plaisirs, et d'un côté, effectivement, il a cette culpabilité qui pèse sur lui, parce que je pense que personne ne peut consommer cette marque sans avoir entendu parler des dégâts écologiques qu'elle cause, mais il y trouve un intérêt, et dans cette espèce de constitution de la personnalité qui est bien plus fort que la culpabilité qu'il en ressent. Et c'est pas pour se couvrir, hein, parce que on est d'accord, personne n'a besoin d'un énième t-shirt pour se couvrir et pour sortir dans la rue, comme tout à l'heure on disait, c'est pas la fonction première du vêtement, c'est sa fonction première au sens propre. Par contre, sa fonction essentielle, c'est une fonction d'identité. Et en fait, ce vêtement, il a été conditionné, Anthony le disait, par un clip que j'ai vu à la télé, par une marque de mode qui a fait ça et que cette marque fast fashion a copié. Et donc, toutes les marques, en fait, sont responsables, même les marques de luxe, en fait, qui à un moment ont donné l'impulsion qui a fait produire ce système.
Et Clarisse Ray, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir parce que sur cette surconsommation, alors tout d'abord, je rappellerai qu'il y a trois grands écosystèmes de mode, la création, la fast fashion et la mass fashion. Et je crois qu'il faut parler aujourd'hui de la mass fashion avec l'arrivée des shine dans le paysage. La surconsommation... Bon, ça n'est pas que la mode, parce que là, on a l'impression, c'est la mode, il y a que la mode, et que finalement, si on supprimait la mode, notre monde irait tellement mieux. C'est vrai dans la nourriture, c'est vrai dans les médicaments. En France, la consommation de vêtements, l'achat de vêtements diminue régulièrement depuis 15 ans. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, comme il était indiqué, il y a aussi des ressorts personnels. Qu'est-ce qui fait que des personnes veulent acheter plus de vêtements? Alors, soit des vêtements neufs, soit des vêtements vintage. La mode n'en est pas la cause absolue. Il faut quand même pas tout jeter comme ça sur la mode en se donnant un peu bonne conscience d'avoir un bouc émissaire.
Alors, très rapidement, Tony Vincent, est-ce qu'il y a problème?
Ok, très rapidement, je voulais dire aussi qu'on assiste à une fast fashionisation de la seconde main, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui hyper consomment de la seconde main en se disant « Oui, c'est beaucoup plus écologique, du coup je vais acheter 50 fois des vêtements sur Vinted et d'autres plateformes
Vinted
de seconde main. »
Vinted étant un site en effet de revente de vêtements, ça marche très bien.
D'occasion, ça cartonne effectivement, mais à tel point que des gens, justement, pour se déculpabiliser, achètent constamment des vêtements sur Vinted.
C'est ce que nous dit d'ailleurs sur l'appli Inter Marilus, qui nous dit « Bénévole dans une friperie, je suis toujours très surprise par les vêtements neufs qui sont déposés en nombre. Hein. Anita aussi qui nous dit les seniors de plus de 65 ans, nous on a de plus en plus de mal à trouver des vêtements qui nous conviennent. Soit nos marques habituelles ont disparu, soit celles qui restent présentent des modèles trop jeunes à la mode et de très mauvaise qualité, parce que la qualité c'est aussi importante. Et puis après, en fait, celle qui peut aussi nous résumer, hein, c'est celle de Camille qui dit personnellement, je suis vraiment consciente des enjeux écologiques posés par la fast fashion et l'ultra fast fashion, mais il m'arrive d'avoir tout de même des pulsions d'achat que je regrette énormément après. Et c'est vrai, on l'a tous. Hein,
mais c'est ok si le t-shirt que vous achetez, il vous dure 10 ans en fait.
Exactement.
Et même si vous l'achetez dans une enseigne de
malheureusement,
fast fashion,
Tony, je ne crois pas que ça soit ça. Alors, on va continuer à en parler dans un instant de cette mode et la manière dont on se comporte par rapport à la mode juste après, et bien un titre de Fatoumata Diawara, Somao, c'est avec Angie Stone.
Nana vim mena, nana vim.
France Inter. Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi.
Le débat de midi, nous parlons mode, nous parlons aussi voilà de vêtements et de cette manière de nous représenter avec les vêtements. Et on parle bien sûr de ce phénomène que nous vivons chaque jour avec la fast fashion, véritable, on va dire, horreur écologique. On le voit avec, en effet, là, on a vu récemment aussi dans le désert d'Atacama qui est devenu une véritable décharge de vêtements. Et notamment, il y a maintenant un mot qui revient souvent, c'est la marque Chine, donc marque chinoise, c'est de l'ultra fashion, condamné souvent pour ses pratiques envers les ouvriers, notamment Ouïghours. Si on veut vraiment, Audrey Millet, résumer aussi la fast fashion, est-ce qu'on peut dire que ça concentre un peu toutes les thématiques de la mondialisation d'aujourd'hui ?
Oui, en effet. On remarque dans le secteur de l'habillement, je laisserai les spécialistes du secteur de l'alimentation en parler également, tous les méfaits en fait d'une culture du plus-plus. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Chine, on peut très bien comparer Pretty Little Things, Fashion Nova, d'autres marques. Mmh. Le désert d'Atacama au Chili, c'est aussi les poubelles géantes du Ghana, c'est aussi Akwedou en Côte d'Ivoire. Là, on focalise, mais en fait, c'est assez global. On se rend compte lorsqu'on étudie alors l'Asie du Sud-Est, la Chine également, et l'Afrique, que tous les types de trafic sont liés. C'est-à-dire que pour faire des vêtements, il faut des gens, et on se retrouve avec des gens compétents devant des machines à coudre à Agadez, au Niger, qui en fait font l'objet de trafic humain. On se retrouve avec ces gens qui travaillent 7 jours sur 7, 14 heures par jour, pas moins, qui en fait sont obligés de se droguer à la kétamine, qui est une drogue pour faire courir plus longtemps les cheveux. Qu'il y a également du trafic sexuel et que ces gens, on les tient, bien entendu, grâce au trafic d'armes. C'est-à-dire que tous ces trafics sont liés, mais on va retrouver ça dans d'autres secteurs. Alors, pour quelles raisons ? Tout simplement pour le business. On ne peut pas en vouloir à une entreprise de souhaiter payer ses employés, de souhaiter faire du chiffre pour investir, ou même à un président d'entreprise, à un directeur général, de gagner de l'argent. En revanche, le système est corrompu. Alors, on attendrait des lois, mais des lois sans trous. Et je crois qu'actuellement, notre plus gros problème, nos plus gros problèmes sont les autorisations de sous-traitance. Et je dois bien admettre qu'il est difficile, notamment pour des petites entreprises, de ne pas, par exemple, aller chercher son textile au Portugal, où on attend en fait des lois d'interdiction d'importation, mais pas spécialement Chine.
Ouais.
C'est-à-dire véritablement des zones où il y a des problèmes. Il y a des problèmes quand même dans beaucoup de zones. Alors, mais ces lois d'interdiction, en fait, elles sont pas possibles.
Elles sont difficiles, en effet, à mettre en place. Clarisse Ray, vous vouliez réagir ?
Oui, je voulais réagir parce que il faut pas, j'allais dire, que toute la fast fashion est, j'allais dire, emploi des esclaves. Enfin, ça n'est pas vrai. Il y en a certaines, oui. Il y en a d'autres, non. Donc, et je voudrais rappeler que
S'il vous plaît. Il est vrai, quand vous dites pas des esclaves, mais on voit quand même des gens très peu payés. On se souvient au Bangladesh, notamment, de cet immeuble qui s'était écroulé avec des ouvrières et des ouvriers à l'intérieur qui étaient payés 2 euros, quoi.
Mais ça n'est pas vrai pour toutes les marques. Et je voudrais dire quelque chose qui peut paraître paradoxal. Il est de l'intérêt des mauvaises marques qui posent les problèmes et qui posent des problèmes fondamentaux de faire croire que toute la mode n'est pas vertueuse. Parce que du coup, eux, ils sont pas du tout vertueux et ça se voit moins. Ensuite, le problème central, j'allais dire, des travailleurs est absolument considérable. Et quand je vois, par exemple, que le FMI a prêté 4,7 milliards au Bangladesh en début d'année, ça serait souhaitable qu'avec des prêts comme ça, il y ait quand même une exigence que dans le pays, il y ait le respect à minima des règles de l'OIT. Ensuite, il y a les sujets techniques d'environnement, où là, nous, à l'IFTH, on est là justement pour inventer de nouvelles fibres, pour remplacer l'élastane, pour remplacer les produits toxiques comme les perfluorés, etc. On est là aussi pour aider des marques et certaines marques de distributeurs chez qui vous allez acheter votre salade et votre fromage, de faire, nous avons la liberté d'aller acheter des vêtements, ce qu'on veut, de les tester et de leur faire un feedback pour leur dire, bah là, c'est pas bien, là, ça va, etc. Il y a des choses qui se font et donc, vraiment, il faut pointer, je veux dire, les marques qui effectivement posent problème.
Parce que
si, oui, sinon, j'allais dire, elles jettent l'opprobre sur tout le monde et finalement, bah, on n'agit pas vraiment sur elles.
Alors, c'est noté. Alors, il est vrai aussi, Anthony Vincent, il y a Sylvie Lefebvre sur WhatsApp qui nous dit une chose. Alors ça, tout le monde a pu le remarquer. Elle dit, voilà, moi, je ne consomme pas énormément de fast fashion, mais plutôt, je vais dans ce qu'on appelle, alors elle appelle ça limite luxe. Alors, quand elle dit limite luxe, elle met entre parenthèses, voilà, Bâche, par exemple. Et elle dit, je suis vraiment déçue. Et ça, je pense que beaucoup de monde aussi l'a constaté par la baisse de qualité permanente, elle dit. Aujourd'hui, alors c'est pour ça que je vais pas acheter non plus la fast fashion, mais je vois une mauvaise qualité aussi quand on paye plus cher.
C'est pour ça que c'est relativement artificiel d'opposer fast fashion et ultra fast fashion avec l'industrie du luxe. Et au milieu, il y aurait le milieu de gamme et le haut de gamme et le premium. Donc pour citer plusieurs marques comme Sandro, Mach, Ludi Pierlo, Bach, etc. Bach
est
encore plutôt bon élève. Oui, oui. J'écoute beaucoup la radio, je sais. Et effectivement, en fait, il y a parmi le segment premium haut de gamme, il y a beaucoup de mauvais élèves qui fabriquent pour très très peu cher, se font une marge énorme sur le dos des clients, des vêtements de piètre qualité. Et donc en fait, après, on paye très très cher un vêtement qui va pas survivre à plus de un lavage. Et ça, c'est terrible. Et c'est aussi pour ça que c'est important de constater que la qualité ne rime pas forcément, un prix élevé ne rime pas forcément avec bonne qualité. Donc c'est pas parce qu'on va vers une marque de premium avec un positionnement haut de gamme qu'on va se retrouver avec un vêtement de meilleure qualité que des enseignes de fast fashion ou du luxe. Enfin, on a perdu tout repère de qualité. Le grand public sait de moins en moins bien reconnaître des bonnes matières premières qui vont durer dans le temps. Et ça, c'est un gros problème d'information, en fait.
D'information, d'éducation aussi à ça. Alors, on va écouter aussi Valérie. Elle nous a laissé une note vocale et je crois qu'à elle seule, eh bien, elle pourrait résumer justement l'émission et le plaisir aussi de s'acheter des vêtements.
Oui, je suis Valérie. Moi, je suis une adepte de la mode, mais plutôt de manière à l'ancienne. C'est-à-dire que moi, la mode, je vois ça comme un investissement. C'est-à-dire que j'achète des vêtements chers, soit, mais que je remets avec plaisir pendant plus de 20 ans, voire 30 ans. Donc, pour moi, la mode, c'est ça aussi. C'est se faire plaisir, avant tout. Être bien, ça nous permet quand même d'être bien dans son corps, dans sa tête. Et puis surtout, en profiter pendant des années.
Voilà donc une note vocale laissée par Valérie sur l'appli France Inter. Julien Ferré, finalement, voilà, c'est ça la bonne démarche.
Ah ben j'adore cette notion de plaisir et je pense qu'elle est au cœur du système de la mode.
Oui, c'est ça, voilà. Et en plus, remettre même ses vêtements pendant 20-30 ans, eh ben, faut mieux les garder puisqu'à un moment, on voit que ça revient toujours à la mode, finalement.
Et non, ça nous définit.
C'est ça, voilà. Et ça fait, la mode est un... Oui.
Mais justement, j'allais dire que quand vous dites que ça nous définit, c'est hyper important et je pense que c'est pour ça que la question de la mode cristallise autant et crispe autant le grand public. Et ça se voit aussi dans la fréquentation des expositions de mode dans les musées, c'est que en fait, ça attire énormément de gens parce qu'on a tous un rapport hyper identitaire aux vêtements.
Bien
ça
sûr.
Nous définit énormément.
Eh bien, merci beaucoup Anthony Vincent. Je rappelle que vous êtes journaliste aux médias Mademoiselle. Merci à Julien Ferré, docteur en sciences de l'information et de la communication. Merci à Clarisse Rey, directrice générale du Défi, en direct des studios Radio France à Lyon, et Audrey Millet, autrice du livre Noir de la mode, une émission réalisée par Étienne Bertin, la technique Florian Dorimini, et préparée par Constance Villanoa, Aloïse Nollet, Pierre de Certaine et Savannah Ruelland.